Chapitre 40. Saphir. Je suis rentrée à 6h le matin du 1er janvier. Aaron dormait et Angelo était dans son petit panier à côté de mon lit. Il s'est levé paresseusement en me voyant pénétrer dans la chambre. Je l'ai soulevé et humé longuement avant de le poser sur le lit. Je me sentais vide, creuse. Tout était si calme. J'avais passé la nuit à sursauter au bruit des festivités, du vent dans les arbres, des voitures qui pétaradaient de temps en temps, des craquements des planches qui condamnaient l'entrée, des battements d'ailes des oiseaux. Dès que je m'endormais, je rêvais que le renard était là, me léchant le visage, respirant dans mon oreille. Mais lorsque je me réveillais, j'étais seule. L'air froid était électrique. J'étais enfin vivante dans la nuit noire. Chez moi, je regardais le mur blanc cassé du plafond de ma chambre, l'abat-jour en papier décoré de cœurs roses que j'avais choisi quand j'avais 8 ans et qui était assorti à ma housse de couette et à ma lampe de chevet. Je ne reconnaissais plus cet enfant et je ne savais pas qui elle serait devenue si Harrison John ne lui avait pas fait ce qu'il lui avait fait quand elle avait 10 ans. Il n'y avait d'autre bruit que le ronronnement de l'immeuble endormi. Je n'avais pas ma place ici. Je devais être dehors. Et encore une fois, l'autre part de moi, celle qui fait ses devoirs, met du vernis à ongles et regarde le meilleur pâtissier, m'a murmuré « Tu es sûre que tu n'es pas folle ?» Je savais qu'elle avait tort. Je changeais. Je me métamorphosais. Je m'ouvrais au monde. Le soir, j'ai à nouveau préparé mes affaires pour aller dormir en face de chez Rohan Force. J'ai dit à Aaron que j'allais chez Jasmine. Il m'a lancé un regard qui voulait dire « Je ne te crois pas vraiment, mais tu es presque une adulte, tu es au bord du gouffre, et je ne veux pas te pousser dans le vide. » La nuit suivante, je suis restée à la maison pour lui, pas pour moi. Je me sentais prise au piège. J'avais l'impression que mon matelas et ma couette allaient m'avaler, que l'air chaud qui tourbillonnait dans la chambre allait m'étouffer. J'étais claustrophobe, angoissée. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, mon drap était entortillé autour de mes chevilles. L'espace d'un instant, j'ai pensé que j'étais paralysée. Une vague de panique m'a submergée. J'ai dégagé mes jambes et je me suis relevée, haletante. Je ne pouvais pas passer une nuit de plus à l'intérieur. Ma transformation était presque complète. Tous les soirs, j'attendais que Aaron aille se coucher et je quittais l'appartement. Dehors, je ne dormais presque pas. Je restais allongée dans le noir pendant que mon âme s'emplissait, que ma tête vibrait. Que mon sang courait dans mes veines, chaud, vif. Je n'avais pas besoin de dormir. Je fonctionnais autrement, puisant une étrange énergie de la terre sous moi, de la lune au-dessus de moi. À l'aube, je rentrais à la maison et me préparais pour aller au lycée. Aaron ne savait pas, ou s'il s'était rendu compte, il ne disait rien. Il pensait probablement que j'avais un copain. Il se comportait avec moi comme avec du verre soufflé. Il n'osait rien me reprocher. Ce qui m'arrangeait bien. Puis un jour, vers la mi-janvier, c'est arrivé. Au fond de moi, je savais que ça finirait par se produire. Ce moment se profilait en périphérie de ma conscience depuis que j'avais 10 ans. Parce que dans tout quartier, même un quartier situé au bord d'une artère principale à 6 voies où la circulation ne s'arrête jamais, matin, midi et soir, entre les bus à 2 étages, les tours, les grands panneaux publicitaires et les banques, il y a toujours ce microcosme fait de petites rues où les passants se croisent, se voient, se frôlent. Où on connaît les gens, car on sait à quelle école ils vont, où leurs mères font les courses, où on traverse les mêmes passages piétons en même temps, et où on sait, car c'est inévitable, qu'un jour on tombera sur la personne qui a enfoncé ses doigts en vous quand vous aviez 10 ans. Et c'est arrivé, dans le brouillard froid de l'aube, alors que je quittais la rue de Rohan pour descendre vers Finchley Road. Il était là, vêtu de noir. La capuche baissée comme moi, une doudoune comme moi, un sac à dos comme moi. Il n'y avait personne à part nous. La lumière brute du lampadaire éclairait dans l'air entre nous des particules diaphanes de vapeur d'eau. Au début, j'ai eu peur parce qu'il y avait un homme, qu'il faisait nuit et qu'on était seul. Puis, j'ai vu son visage, ses sourcils épais, le creux sur son arête nasale comme si quelqu'un lui avait appuyé sur le nez. Harrison John. Le garçon qui avait enterré la fillette qui aimait les abat-jours roses. Il m'a regardé. Moi aussi. Il m'a reconnu, puis a souri. Saphir Maddox. Je n'ai rien répondu. Je l'ai dépassé le plus vite possible, à la recherche des phares des voitures matinales qui roulent sur Finchley Road. Sophia Maddox, tu ne dis pas bonjour ? J'avais envie de faire demi-tour, de remonter la colline, de me planter devant lui et de lui cracher. Espèce de gros porc, sous-merde, j'espère que tu vas crever. Je n'en ai rien fait. J'ai continué à marcher, un pas après l'autre. Le cœur battant à tout rompre, à deux doigts de vomir. Je suis rentrée à la maison et j'ai fouillé tous les tiroirs jusqu'à trouver un trombone. Je l'ai déplié pour former un petit crochet et j'ai baissé mes chaussettes. J'ai pressé la pointe sur ma peau, d'avant en arrière. Encore et encore, jusqu'à ce qu'une perle de sang, puis deux, puis trois, apparaisse. Et enfin, j'ai senti quelque chose de plus fort que le pouvoir de Harrison John.